Bonsoir à tous, il est 20h02, tout de suite c'est votre émission sportive de Radio G, c'est Génération Sport, et on se retrouve juste après le générique. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ou bonne continuation sur Radio G. Tout de suite, on va passer une heure ensemble, puisque vous l'avez reconnu grâce au générique, et à la douce voix d'Alex. C'est l'heure de Génération Sport. Il me semble que ça faisait deux semaines que l'équipe n'était pas au complet. La semaine dernière, Cédric n'était pas là, et il y a deux semaines, c'était Alex et moi qui étions absents. Aujourd'hui, si je dis ça, c'est forcément que l'équipe est au complet. Comment ça va ce soir, Cédric ?
Écoute, ça va bien. Un peu stressé par les enjeux pour les Ducs ce soir.
Ouais, on en parlera
match
des Ducs.
Compliqué.
Ouais. Qui sont en train de faire un.
Ils sont sûrement à cette heure-ci dans la phase d'échauffement, puisque le match est à 20h30.
Voilà, donc on en parlera, et puis même, on espère qu'il y aura des buts pour les Ducs pendant la période, notre temps d'antenne. Et on aura l'occasion de partager ça avec vous, mais on en parlera des Ducs et des quatre premiers matchs qu'ils ont fait dans cette demi-finale des playoffs. Alex sera à la régie ce soir. Comment ça va, Alex ?
Eh bien, ça va très bien, Max. En cette belle soirée, il fait jour, ça c'est.
Il
faut le noter. Une émission de Génération Sport, oui, il fait jour, c'est plutôt agréable.
Plus une émission sans masque.
Effectivement. Alors là on se croirait en 2019. C'est magnifique. C'est magnifique. Très très content. Comme je disais, une belle journée. Puis il y a pas mal d'actu sportive, que ce soit en local, en national et en international, avec une grosse soirée de Coupe du Monde. En tout cas, ouais. Vas-y, la soirée de Coupe du Monde, on en reparlera juste après.
Pour la Coupe du Monde, on va encore attendre quelques mois avec cette sublime compétition au Qatar. Ouais, on parlera des qualifications, que ce soit sur la zone Europe, zone Afrique ou même zone asiatique, et même aux zones Amérique, où il y a eu on vous spoil pas, mais il y a eu un pays qui n'avait pas été qualifié depuis 1986, il me semble, qui s'est qualifié. Donc on aura l'occasion d'en parler. Et puis vous étiez habitué à l'entendre ces dernières semaines sur Radio G à cette heure-là. Faustin n'est pas avec nous ce soir puisqu'il est malade. Donc s'il nous écoute, on passe le bonsoir à Faustin, et on doute pas que ses qualités vont revenir dans l'émission avec une chronique. Que ce soit sur le basket ou sur...
Ce jeune rookie,
exactement. Je pense que ce terme lui fera bien plaisir.
Ah, bien sûr.
Eh bien, ce que je te propose, Alex, c'est de passer directement à la...
Ouais.
Au 1-2. Ouais, je suis en fin de vacances. Allez, c'est parti. Le 1-2.
Ouais, le 1-2, on va commencer avec les actus locales, avec le handball, avec le SCO, qui a débuté, qui a débuté son match. C'était vendredi dernier. C'était à Billière. Faut savoir que les Angevins avaient gagné à l'aller. C'était une de leurs seules victoires de la saison. Une victoire qui était à l'époque assez surprenante. Billière qui se situe plutôt dans le milieu du classement, on va dire un peu bas. Les scoïstes qui sont allés de bon cœur dans cette rencontre. Ils menaient pendant un certain temps sur la deuxième partie de première mi-temps. Ils repartaient d'ailleurs à la pause avec un point d'avance. Mais malheureusement, en deuxième mi-temps, les Angevins ont craqué en laissant les joueurs de Billière l'emporter 31-29. Alors, on le disait, le maintien s'éloigne de plus en plus. Il y avait eu déjà des défaites face à des grosses équipes du championnat. Là, face à une équipe abordable, c'est une nouvelle défaite qui fait mal pour les joueurs de Issam Tej et de Denis Tristan, puisque les Angevins ne sont plus qu'à 7 points. En tout cas, ils sont à 7 points du premier non relégable Valence. Donc, ça devient de plus en plus compliqué pour les Angevins. Vraiment, on sent que sauf exploit ou ajustement administratif, comme on a l'habitude de faire du côté du club d'handball d'Angers. En tout cas, voilà, Angers se dirige tout droit vers la Nationale 1 et surtout qu'ils vont jouer 5 membres du top 6 sur les dernières journées, avec également donc 2 matchs face à Besançon et justement face à Valence. Donc on verra si c'est possible ou pas, mais en tout cas ça paraît mal compliqué pour les joueurs du Scandball.
On va continuer avec le SCO, mais on va changer de ballon et on va s'intéresser à une autre équipe qui vit aussi des moments compliqués, le SCO Football. Alors même si voilà, en ce moment c'est la trêve internationale et on en reparlera tout à l'heure hein, des résultats de l'équipe de France, et ben le SCO, donc ce week-end, donc le week-end dernier pardon, le SCO a battu Brest sur le score d'1-0 et ça faisait 7 matchs d'affilée que les Angevins perdaient. Donc c'était une série noire et on l'espère pour les Angevins que cette malédiction est terminée, puisque la reprise du championnat ce sera ce dimanche avec un gros déplacement à Lyon. Donc attention à ce déplacement, puisqu'ensuite les Angevins recevront Lille, ensuite on ira à Nantes et après on recevra le Paris Saint-Germain. Donc le calendrier est assez chargé, il y aura également un match face à Monaco début mai. Donc on espère que les Angevins vont faire le boulot. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous les voyez sombrer ou pas, le SCO, messieurs?
Sombrer, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a pas mal de gros adversaires, je crois, qui s'annoncent sur la fin de saison. Donc voilà, je pense quand même que le maintien peut être jouable. Hein. Faut pas non plus se résigner. Mais il faut faire gaffe. Il va falloir choper les points sur les matchs couperets face à les petites équipes. Ce que le SCO n'arrivait plus à faire ces derniers temps, donc voilà, il va falloir vraiment cravacher pour aller chercher ce maintien encore un peu, parce qu'on sentait que les Angevins étaient dans un certain confort depuis un certain temps.
Et au niveau du classement, justement, le SCO est 14e et donc ils sont à 5 points de Saint-Etienne, 18e, donc de la place de barragiste, pardon. Donc l'écart de points est assez faible. Par contre, Metz, qui est 19e, a 9 points d'écart avec le SCO. Donc voilà, le SCO peut respirer un petit peu, mais il faudrait avoir des victoires contre Bordeaux, qui est dernier du championnat, et notamment contre Metz, qui est avant-dernier. Voilà, c'est 2 victoires obligatoires pour les Angevins.
Sachant que les 4 matchs à venir
risquent d'être très compliqués.
C'est quasiment... Ah, et peut-être Nantes, qui est jouable sur une victoire, mais je vois mal Lyon au vu des épreuves qui sont... devant eux. Paris, même si on sait pas trop c'est quoi l'équipe de Paris qu'on a actuellement, mais bon, je vois pas une victoire. Donc et puis Lille qui a tout à gagner actuellement, donc
ouais. Et même Lyon, hein, qui en championnat n'est pas au mieux, qui doit absolument battre ses adversaires comme ça, qui sont largement à leur portée.
C'est pour ça, ces 4 prochains matchs, je suis pas
très compliqué,
forcément optimiste.
Ouais, moi non plus, mais j'espère que le SCO va réussir à gratter des points par-ci par-là.
On va enchaîner avec le basket. Ça a été un week-end plutôt mitigé hein, pour les équipes d'Angers, avec pour commencer la défaite de l'UFAB 49 lors du derby des Pays de la Loire contre la Roche-Vendée. Une défaite 78-71 qui ne fait vraiment pas l'affaire des joueuses de David Gauthier. On en a parlé la semaine dernière avec notre invité Isis Arondo. C'était un match vraiment décisif parce que déjà voilà, il y avait la suprématie territoriale face aux joueuses de La Roche, et puis surtout c'était une affaire comptable qui était également sur le terrain, avec cette victoire qui aurait pu faire beaucoup de bien et qui aurait pu être un grand pas vers les playoffs. Malheureusement donc défaite, alors que c'était un match très serré tout le long. Saint-Amand et Lattes Montpellier sont juste derrière Angers au classement à une victoire près, en sachant que ces deux équipes là vont s'affronter ce week-end. Mais surtout, ce qui est un petit peu plus inquiétant pour l'UFAB, en tout cas c'est au niveau du calendrier qui arrive en fin de saison, avec plusieurs équipes, notamment du haut tableau, qui vont jouer contre les Angevines. Ça va être donc compliqué. Il va falloir donc se battre pour Angers, pour aller chercher ses playoffs et donc un potentiel maintien dans l'élite. Au niveau de l'EAB, vous l'avez peut-être vu sur notre story Instagram, les joueurs de Sylvain Delorme jouaient hier contre Chartres, c'était à domicile, et ils ont fait un grand pas vers le titre de National 1 avec leur succès 101-89. Ils ont été pas mal bousculés en première mi-temps. Ils perdaient d'ailleurs sur la première mi-temps. Mais en tout cas, ils ont réussi à l'emporter et ainsi à décrocher cette cinquième victoire lors de la seconde phase qui leur permet d'avoir deux victoires d'avance sur Poitiers. C'est vraiment un résultat qui permet vraiment à l'EAB de creuser l'écart en sachant qu'il reste 5 journées. Et donc au bout de 3 victoires, on peut dire avec certitude que l'EAB sera champion de National 1 et ira en Pro B l'année prochaine. Un petit mot au niveau de Cholet Basket qui a gagné une nouvelle fois contre le CSP Limoges 78-54.
Allez, on va passer de l'EAB à une autre grosse performance qui est en train de, sur la saison en tout cas, d'une équipe angevine. C'est les Ducs d'Angers dont on a déjà parlé en début d'émission et dont on parle beaucoup ces dernières semaines, puisque les Ducs d'Angers font une saison tout simplement remarquable. En ce moment même se disputent les demi-finales de play-off et les Angevins sont dans une confrontation face à Rouen. Les play-offs, 4 matchs. Si il n'y a pas 4 victoires durant ces 4 matchs, 3 matchs supplémentaires sont organisés. Le premier match, Angers perd 3-2 face à Rouen. Il me semble que les Ducs menaient 2-1 jusqu'à. Enfin, il me semble que les Ducs prennent 2 buts dans les 5-10 dernières minutes.
Ça s'est joué, oui, vraiment en fin de match.
Ouais, donc c'est un peu dommage. On reviendra après sur match par match. Ensuite, les Ducs ont bien pris leur revanche à domicile à l'Ice Park avec une belle victoire 4-1 face à Rouen. Ensuite, 2 jours plus tard, à Rouen, les Ducs l'ont emporté 2-1. Et le dernier match, c'était dimanche dernier, où les Ducs se sont inclinés 2-0. Et donc, le cinquième match de ces demi-finales de play-off, c'est dans un quart d'heure. C'est dans un quart d'heure à l'Ice Park. Donc, on espère que vous serez présents sur place pour pousser derrière les Ducs qui peuvent clairement se qualifier en finale. Il me semble que de l'autre côté, Grenoble n'a pas réussi à gagner ses 4 matchs face à Cergy Pontoise. Donc 3 matchs supplémentaires sont organisés, mais ils en gagnent 3 sur 4 et normalement, sauf gros retournement de situation, Grenoble devrait se qualifier pour cette finale de play-off. Donc toi Cédric qui a l'habitude de suivre pas mal les Ducs, déjà est-ce que tu as eu l'occasion d'aller à l'Ice Park pour ces play-offs?
Non, hélas.
Peut-être que le prix des places a augmenté.
Non, c'est même pas une question de ça, c'est que c'est la fin du mois et d'autres projets, donc de l'argent à investir autrement, mais non, parce que concrètement les places n'augmentent pas tant que ça. Ça c'est, ouais, c'est quand même assez intéressant à noter comparé à des fois d'autres sports pour les Coupes de France, notamment en foot où les prix des places sont hallucinants, ouais, je dirais, ouais. Et je reste poli. Non, là, il y avait peut-être une augmentation de 2 euros par rapport à d'habitude.
Ça reste raisonnable.
Voilà, une place qui est à 18, passée à 20, mais dans l'ensemble, non, ça reste quand même accessible. Voilà, donc, j'ai pas pu voir les matchs, parce que j'avais pas non plus. Le problème, c'est que le hockey est exposé, mais pas assez. Ouais. Si on n'a pas l'abonnement sur un site... qui diffuse toute la saison, qui est en partenariat avec la Ligue, c'est un peu compliqué. On parle souvent de la chaîne Sport en France. Ils ont des matchs de la saison régulière, mais ils n'ont pas l'exclusivité pour les matchs des demi. Peut-être que pour les finales,
ce sera bien.
De la Magnus, c'est peut-être différent. Il y a peut-être plus de matchs qui vont être diffusés. Mais en tout cas, non, ouais. En termes d'influence, ça s'est confirmé. Il y a eu du monde. Ça a bien poussé. Enfin, voilà. Donc, sur un point de vue comptable, c'est vrai qu'il y avait un gros coup à faire ce week-end. Le match retour, perdre 2-0, ça joue vraiment sur le gardien rouennais qui a fait une saison impressionnante. Hein. Il a toujours fait des gros matchs contre Angers. Enfin. Ça, c'est une performance à saluer. Donc un peu tendu ce match ce soir. Soit ça va être un match chouchou, il va y avoir des buts à gogo. Mais je pense que vu l'enjeu, ça va sûrement être serré.
Sachant que, point positif, comme on l'a dit, il y a 3 nouveaux matchs qui sont organisés pour la qualification en finale de ces playoffs. Et 2 de ces matchs auront lieu à Angers, à l'Ice Park. Donc c'est un point positif, même si au vu des derniers résultats, les Ducs ont quand même réussi à gagner à Rouen et à perdre à domicile. Mais on espère en tout cas que le public angevin sera déterminant dans cette qualif. Quoi.
Alors, ce sera positif si Angers arrive à s'imposer là.
Ouais, si les Ducs gagnent ce soir, c'est très très bon.
Si Rouen s'impose, je pense que derrière le dernier match à domicile pour Rouen, ça va pousser aussi bien sur la glace que dans les tribunes. Et
en tout cas, ce serait
un peu plus compliqué, mais en tout cas, voilà. On savait que de toute façon, tôt ou tard, on allait les affronter. Si c'était pas eux, c'était Grenoble. Voilà, Grenoble, qui oui a été un petit peu chahuté, hein, qui a perdu un match, mais bon. Dans l'ensemble, ils sont quand même au-dessus, donc logiquement, ce soir, je pense que ça va passer pour eux et ils vont faire un pas vers la qualification.
Quoi. Ouais, il y a de grandes chances. En tout cas, ce serait super au moins d'accrocher une finale de play-off pour conclure cette super saison des Ducs qui, on le rappelle, ont gagné la Coupe de France. Mais bon, quand on est en finale, on n'a pas envie de conclure tout de suite. On veut aller au bout et on espère que cette saison sera une saison record pour les hockeyeurs angevins qui le méritent.
Et puis on peut noter quand même les bonnes performances de Vincent Lurca qu'on a reçu. Voilà, qui a mis quelques buts durant ces phases de play-off. Maintenant quoi, une dizaine de minutes à peu près, ça devrait commencer. L'envoi du début du match.
Ouais, un rendez-vous important pour le sport angevin. Et puis surtout, s'il y a un match 7, ce sera à Angers, donc à l'Ice Park.
C'est ça.
On encourage tous les angevins, fans des Ducs, à aller à l'Ice Park si jamais il y a un match 7 qui venait à arriver. On va repartir sur l'actualité nationale avec, pour commencer, le basket, puisque vous le savez peut-être, se déroulait à l'Arena Loire de Trélazé le top 8 de la Coupe de France de basket. Voilà, ça regroupait les quarts de finalistes de la compétition. Alors, il n'y avait pas Cholet ni l'UAB, mais en tout cas, voilà, il y avait des équipes venues de toute la France pour avoir leur ticket pour la finale. Donc, une finale qui aura donc lieu entre Strasbourg et Paula Cortez. À noter donc au niveau de la journée du 26 mars, donc le samedi, Paula Cortez a dans un premier temps battu Fos-sur-Mer 93-72. Ensuite, Strasbourg a battu Boulogne-Levallois 95-87. Monaco s'est défait de Bourg-en-Bresse 74-65. Et enfin, Gravelines-Dunkerque s'est imposé sur le fil contre l'Asvel 79-78 lors des demi-finales qui avaient lieu le 27 mars. Strasbourg a dominé Monaco 86 à 73, pardon, je vais y arriver. Et puis enfin, Paula Cortez a créé la petite surprise en s'imposant face à Gravelines Dunkerque 88-85. Donc les Trélazéens et les Angevins en général ont pu profiter de ce beau spectacle à l'Arena Loire, donc avec les meilleures équipes du championnat de France de basket. Et voilà, donc la finale, on le rappelle, qui sera entre Paula Cortez et Strasbourg.
Et on va ouvrir la grosse page consacrée à l'actualité du football. On va d'abord parler de l'équipe de France qui joue ce soir 21h15 contre l'Afrique du Sud. L'équipe de France avait battu, c'était la Côte d'Ivoire à Marseille. C'était, je sais plus exactement, ça devait être vendredi soir ou samedi soir. Victoire 2-1, alors que l'équipe de France a été malmenée. L'équipe de France est tombée sur une très belle équipe ivoirienne. Mais au final, avec le premier but en sélection de Tchouaméni en toute fin de match, les Bleus ont réussi à s'imposer. C'était pour un match amical et donc ce soir rebelote face à une autre équipe africaine, l'Afrique du Sud. Mais ce soir se joueront des matchs décisifs pour la qualification à la Coupe du Monde. Là, on a vu l'Italie perdre et donc être éliminée de cette Coupe du Monde. Ce soir, il y aura deux finales, deux places pour cette Coupe du Monde en zone Europe, pardon. La Pologne affronte la Suède et le Portugal affronte la Macédoine du Nord, donc tombeur de l'Italie, championne d'Europe. Ça va faire deux mondiaux consécutifs, pardon, que l'Italie ne jouera pas, donc quand même grosse désillusion. On en parlait en tout début d'émission, le Canada s'est qualifié pour la Coupe du Monde, ça n'était pas arrivé depuis 1986 si je me trompe pas, donc vrai événement en Amérique. Alors il y aura également des matchs du côté de la zone Afrique, mais il me semble pas que ce soit les finales directement ce soir. Il me semble que c'est les poules.
Non, en gros, c'est ce qui se passe en Afrique là actuellement, c'est que les barrages ont commencé déjà en fin de semaine dernière avec donc 5 barrages. Là actuellement, il y a les matchs retour, donc il y en a 2 qui se jouent actuellement et il y en a 3 qui se jouent à 21h30. Est-ce que tu as les scores ou je les donne, Max?
Ouais, alors on a Nigeria Ghana 1 partout en ce moment et le Sénégal qui est en train de mener 1-0 face à l'Égypte. Sénégal, on le rappelle, champion en titre de la CAN, et d'ailleurs au Sénégal Égypte c'était l'affiche de cette finale. Donc mais au cumul des deux scores, il y a un partout, donc tout reste à faire. Et puis ce soir il y aura aussi un très gros match, Algérie Cameroun, l'Algérie qui on le rappelle doit se rattraper après sa Coupe d'Afrique des Nations un petit peu décevante,
et également donc Tunisie Mali et Maroc RDC, donc enfin Congo RDC. On va enchaîner avec le tennis et le Masters 1000 de Miami qui a lieu en ce moment même, donc du côté des États-Unis évidemment. Vous êtes bon en géographie, vous savez où est Miami sur la carte du monde actuellement. Donc il y a pas mal de huitièmes de finale qui sont en cours, en tout cas il y en a deux tennismans qui sont déjà qualifiés. C'est le Norvégien Ruud qui a battu l'Anglais Norri, et enfin Zverev vient de gagner face à l'Australien Kokkinakis, et donc les deux vont se retrouver en quart de finale. Donc actuellement on a plusieurs matchs qui vont avoir lieu donc dans cette journée, dans la nuit. On a notamment l'Italien Sinner qui jouera à Kyrgios, hein, l'Australien un peu fantasque. Et puis on aura un gros match entre Alcaraz et Tsitsipas qui va être également intéressant. Et le numéro 1 mondial, Daniil Medvedev contre l'Américain Brooksby. Du côté des femmes, puisque c'est également un tournoi qui à la fois comprend un tableau homme et un tableau femme, avec donc on connaît déjà là les quarts de finale avec la Suisse Bencic qui jouera contre l'Australienne Saville, Osaka qui a réussi à se qualifier face à l'Américaine Riske qui va rejouer une Américaine puisque elle jouera contre Collins, et puis il y aura la nouvelle numéro 1 mondiale, donc la Polonaise Iga Swiatek qui va jouer la Tchèque Kvitova, et l'Américaine Pegula sera opposé à Badosa, l'Espagnol. Donc voilà pour le Masters 1000 de Miami.
On va maintenant parler Formule 1 avec le Grand Prix d'Arabie Saoudite qui s'est déroulé ce week-end. Deuxième Grand Prix de cette nouvelle saison. Cédric, je vais te laisser en parler puisqu'il y a eu des événements un petit peu impressionnants ce week-end.
Je dirais même plutôt explosif.
Est-ce que le terme est politiquement correct là?
Le terme est carrément incorrect puisque pendant la première séance d'essais libres, à peu près 10-12 km de là, on avait les usines, les raffineries, de pétrole et de gasoil, tout ça, qui ont été simplement apparemment attaqués par un missile. On a appris quelques heures après que c'était un attentat revendiqué par un parti yéménite. Donc il faut savoir qu'il y a une grosse histoire géopolitique entre le Yémen et l'Arabie Saoudite. Suite à ça, la question c'était de se poser si on faisait ou pas le Grand Prix, vu que mine de rien 12 km c'était pas loin du Grand Prix, rien n'empêchait que ça recommence. On se rappelle du Paris-Dakar, hein, puisque juste avant le départ officiel du Dakar, il y a quand même eu un attentat sur une voiture, voilà. Donc ça plus ça, on pouvait se poser éthiquement la question de faire ou pas cette course. Suite donc à cette première journée de qualification, il y a eu une grande réunion du côté FIA qui assurait que tout pouvait se faire correctement. Les pilotes ont décidé de faire une réunion entre eux. Suite à ça, il y a eu donc les managers qui sont joints à eux, qui sont partis, qui sont revenus, et au final tout le monde était, selon la version officielle, puisqu'on l'apprendra un peu plus tard qu'il y avait des différences, de faire cette course. Donc séance 2, il n'y a pas eu de souci. C'est 3, nickel. Il y a eu les qualifications. Premier rebondissement, c'est la contre-performance d'Hamilton, qui ne passe pas la Q1, enfin la Q3, donc la première partie des qualifications. À noter dans la Q2, l'accident de Ralf Schumacher, qui, au vu de ce circuit, aurait pu être plus catastrophique que ça. Surtout quand on voit comment sa voiture s'est retrouvée fendue en deux. Voilà, le problème d'un circuit où il n'y a pas de zone pour s'évacuer, il n'y a pas de zone à gravier, enfin, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a rien. C'est vraiment, on est entre quatre murs, et dès que ça tape, ou qu'on saute un petit peu sur un vireur, voilà, ça peut finir dans le mur, et le problème, c'est que c'est à peu près une dizaine de G direct dans le mur. Donc je crois que quand il a tapé, il a tapé à 200 et quelques.
Ouais, donc on peut imaginer les dégâts.
Voilà, donc il s'en est sorti avec rien en tout cas. Donc ce qui était déjà un espoir. On aurait pu penser à des petites couvertures, des choses comme ça, ou des fractures. Mais donc du coup, As a quand même décidé de ne pas le faire concourir le lendemain. Officiellement pour qu'il se repose. Je pense qu'il y a aussi un aspect aussi, ça aurait pris trop de temps de reconstruire une voiture juste pour la course. La rigueur, c'est une bonne décision. Et donc, on a eu ce Grand Prix avec quelques rebondissements, mais vraiment, ce circuit, on peut rien faire en termes de. Si tu attaques, c'est soit tu te mets dans le mur, soit tu es obligé de céder, parce qu'il n'y a aucun échappatoire. Par contre, on a vu une belle course. D'Hamilton qui a pu remonter, mais bon, il y a eu cet accident qui a fermé la voie des stands, donc du coup il a pas pu changer ses pneus tout de suite, donc il l'a fait rechuter au classement, mais bon, il avait fait quand même une belle remontée. Voilà, devant Verstappen Leclerc voilà, qui sont livrés une belle bataille. Ça fait deux grands prix où voilà, on sent que Ferrari est à fond. Alors ça fait plaisir au moins d'avoir une nouvelle écurie compétitive. Et voilà, enfin, pas un grand prix exceptionnel non plus. Hélas, on va encore en bouffer pendant des années, hein, puisque c'est le sponsor principal de la F1. Surtout quand on voit le cash prize qui est lâché pour juste cette compétition-là. Voilà, mais bon, c'est un peu dommage de supprimer des circuits historiques. On parle d'une disparition, par exemple, de Spa dans les années à venir, et puis d'instaurer des circuits comme ça où, bah, limite, c'est, on est là pour l'argent et pas pour le sport, quoi.
Bah, malheureusement, plus les quand on voit aujourd'hui des compétitions dans des pays, voilà, comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, c'est vrai que la question monétaire est souvent posée avant la question sportive. En tout cas, je sais pas si on l'a signalé. On a signalé qu'il y avait une bataille justement pendant cette course entre Verstappen et Leclerc, et c'est Verstappen qui a remporté ce Grand Prix. Et pour le calendrier, la prochaine course, ce sera le GP d'Australie, et ce sera dimanche, donc pas ce dimanche-là, mais le dimanche 10 avril.
Oui.
C'est ça.
Là, on va vraiment arriver sur les circuits classiques.
Ouais.
Le seul qui va être un peu fantasy, ça va être Miami juste après l'Australie, je crois. Où il y a l'Italie d'abord et après on ira en.
Ouais, c'est ça. C'est ça.
En tout cas, enfin, prochain Grand Prix, sûrement, historiquement, c'est à l'avantage des Red Bull. Et je pense que derrière, on va être vraiment sur un circuit à la maison pour Ferrari. Donc je pense que sur les deux prochains Grands Prix, on va avoir deux tendances différentes, quoi.
Bon, on suivra ça en tout cas.
Et au niveau du classement, donc on l'a peut-être pas dit, mais Lewis Hamilton a terminé 10e, Ocon, le Français, a terminé 6e, Gasly 8e, et du coup c'était Carlos Sainz, hein, le pilote de Ferrari, qui complétait le podium.
Ouais,
c'est Ferrari qui est largement en tête des constructeurs, avec donc on va dire, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas 4 podiums si on compte les deux premiers, enfin en tout cas voilà.
C'est C'est deux places sur le podium en deux Grands Prix. Enfin, quatre places sur le podium, voilà.
C'est un 100%, si on peut dire ainsi.
C'est 100% de podium en cette saison.
Donc, ils sont largement en tête. On va passer à une pause musicale après ce long 1-2, mais c'est très important on reliait l'actualité sur tous les terrains, puis on donne notre avis également. Après, on parlera justement un peu de football avec les éliminatoires. Il y a les matchs qui jouent en ce moment, ça va être aussi sur la fin d'émission, il y en a qui vont se lancer. On donnera également la composition de l'équipe de France avec son match face à l'Afrique du Sud, et puis on fera évidemment un point sur les Ducs. On en profitera aussi pour parler un peu judo, pour faire plaisir à notre auditeur préféré Yann, et puis on va passer à une pause musicale. On va s'écouter tout de suite l'ESRAM en featuring avec Nekfeu, sur la Donoda Mixtape, je vais y arriver. Hein. Et puis le son s'appelle San Andreas. On s'écoute ça et on revient juste après.
3-1-0. Frérot, je m'en bats les couilles, je peux rapper sur tout. Mais sachez surtout que je suis pas là pour gratter sur vous. Je tiens le volant à deux mains, sur l'autoroute à 2-20. Le garnement à sec, je regarde mon assiette. T'as pas à vous hypothéquer, y'a les flics au TP. T'as du flic, faut prêter, refaire magique au pété. Pour être bien, faudrait souffrir, faut délever pour vivre. Les jours où y'en avait pas, j'en garde un mauvais souvenir. Frérot, démerde-toi, entre le ciment et les cailloux. Dans mon répertoire, y'a que des clients et des voyous. Qui vole un œuf peut voler ton bétail. J'ai pas pesé mes mots, non, j'ai pesé mon détail. Stop, refrain, on t'étale, on a le droit à des visites. On a des visions, un peu comme à des bises. Fini de se marrer, si faut se barrer d'ici. Je te parle des villes ciblées par les villes si. La night, auto, boîte auto, sans l'embrayage. Je suis cheaté, je me prends pour CJ dans San Andreas. Les rues de ma ville, j'en suis devenu l'orateur. À chaque godane, je me crois dans une lowrider. La night, auto, boîte auto, sans l'embrayage. Je suis cheaté, je me prends pour CJ dans San Andreas. Ça fait 100 ans, je rêvasse à propos de la maille de ma life. T'es au top des mains, en fait t'as pas de travail, hein, t'as d'amende. Mon pote des mains, on voit le code pénal comme des hiéroglyphes. Donc les frérots glissent. Porte la 09, prends un 06.
Qui vole un 9, vole aussi les munitions. Mon pote est minutieux, il vend la CM et fait du son. Il part du 19 à la piscine Molitor, la monnaie d'or. Pas du 9 à ici les moulineaux. Le truc est sérieux, ça y est, l'intro est fini. À tout moment, je peux serrer comme Troy Phillips. Dans GTA 5, quand j'étais à sec, je disparaissais comme une trottinette qu'on jette à la scène. Le prototype est fiable, ingénieur allemand. Le type est fier, petit à petit devient un génie oralement. Généralement, les cons sont générés rarement. Résultat, hausse de la natalité chez les rats morts. Y'a les bleus, je décélère à mort. Je fais ce qu'il est radar, je fonce. Je suis pas généreux quand je te vois faire ce que les radins font. Et sous l'impulsion du terre, j'ai eu l'impression de tête. J'ai même plus besoin de tel. Je suis devenu solitaire parce qu'il déforme les faits. Paraît que j'arrête cet été. Bien que pourtant je n'ai fait aucune annonce de tel. On n'est qu'un morceau de terre. Je ne suis plus jeune et faible. Skyrock pédophile et femme. Chez nous, y'a personne qui les aime. Ça fait semblant en attendant de peser assez pour les baiser. Jusqu'à l'os d'un étage, jusqu'à l'autre, j'escalade. J'escalade, je vois les pêches qui au moindre j'escalope. Laisse qu'il est, j'escalade jusqu'à la fin.
De retour dans Génération Sport. On est de retour pour les dernières 25 minutes qui nous restent sur le 101.5 FM de Radio G. Vous nous écoutez depuis le 101.5 FM ou sur internet avec le site www.radio-g.fr. On va maintenant parler un petit peu de sport, évidemment, puisque c'est le thème de l'émission.
Quelle transition,
voilà.
J'ai cru qu'on avait parlé de tricot.
Ouais, pareil.
J'étais très inspiré. Allez-y, chambrez-moi. Du coup, on va faire un petit point sur le judo. Il s'est passé quelque chose, notamment ce week-end. Il y a eu l'Open d'Alexandrie de para-judo. Des arts martiaux. Avec l'équipe de France, donc de para-judo, qui a frappé fort du côté de l'Égypte, avec 5 combattants engagés et 5 médailles remportées. Donc 3 en or et 2 en argent. Donc c'était vraiment une belle réussite pour la délégation para-judo. Et voilà, évidemment, la France est première au classement des nations. Il y aura un autre Open, enfin en tout cas, il y aura un Grand Prix en Turquie en fin d'avril prochain. Voilà le petit point judo qui fait toujours pas de mal, évidemment.
Et puis il y a eu aussi un tournoi de judo pour les vétérans qui a apporté chance aussi, enfin chance, c'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas qui avait des représentants du bassin saumurois, où on a une 7e place et une autre place, alors j'ai pas le résultat, mais en tout cas voilà, on avait des gens de notre région qui nous représentaient dans cette compétition de vétérans, qui c'était à Saint-Aubin-du-Médoc. La prochaine étape, je crois, c'est à Tours.
Très bien. Eh bien, voilà, on referme cette petite parenthèse judo. Et d'ailleurs, on fait un petit bisou à Yann qui nous écoute. On va enchaîner. Sur quoi vous voulez parler, messieurs? Un peu de football, un peu de hockey? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Peut-être Cédric?
Oui, déjà, point. Le match a commencé.
Les deux matchs ont commencé. D'ailleurs, on peut faire un point sur les scores. Angers-Rouen 0-0, 15 minutes. 20 encore de match. Et dans l'autre demi-finale qui nous intéresse, Grenoble contre Cergy, ouverture du score de Grenoble, il y a 1-0, il reste 7 minutes puisque le match a commencé un tout petit peu plus tôt.
Donc voilà, Grenoble qui va vraisemblablement se qualifier pour la finale.
En tout cas, Grenoble qui a mis l'ambiance aussi pour ce début de match, avec des effets pyrotechniques, enfin avec on avait un côté un peu super beau là, avec un loup géant pour faire entrer les hockeyeurs, et au niveau du score, une grande tête. Donc c'est toujours appréciable comme spectacle.
Ouais, bah pour
les fans de hockey, voilà.
Le show a sa place dans ces playoffs. Mais pour parler de l'aspect sportif, je pense que quoi qu'il arrive, Grenoble va être très compliqué à aller chercher. C'est pas pour ça que c'est impossible, mais voilà, on l'a vu tout au long de la saison quand même. C'est une équipe qui
ils ont été solides,
qui on impose et qui est la meilleure équipe sur cette saison. Après, on n'est pas à l'abri de voir voir Angers ou même Rouen aller chercher cette finale des playoffs, mais en tout cas voilà, grosse saison pour Grenoble. On peut passer du côté
aux images là que je vois de l'Ice Park, hein, c'est encore blindé et
évidemment
pour avoir écouté un peu le son pendant la pause, ça pousse du côté des des deux associations de supporters, notamment le PEC Angevin qui est toujours présent, quoi.
Ce serait génial de vivre une finale de cette demi-finale à l'Ice Park, ou même pourquoi pas une finale de la finale à l'Ice Park. Ça peut être un moment exceptionnel et on vous invite évidemment, chers auditeurs, à vous rendre sur place. De toute façon, Cédric, t'hésites pas à nous couper dès qu'il y a un but, que ce soit dans...
Tu cries surtout.
Tu peux crier, que ce soit...
Tu fais saturer les micros.
Dans les deux rencontres. Nous, on va parler du très vite fait du match de l'équipe de France qui a lieu ce soir contre l'Afrique du Sud.
Bien sûr.
Avec beaucoup de choix différents dans la composition. Je vais tout de suite vous l'énoncer. Mike Maignan sera dans les buts. Il y a deux premières titularisations ce soir. C'est William Saliba et Jonathan Clauss qui feront leur début. Ils ont déjà fait leur première sélection contre la Côte d'Ivoire, mais là, ils sont titulaires. Donc ensuite, en défense, à côté de Clauss et Saliba, il y aura Varane, Kimpembe, Digne. Au milieu de terrain, ce sera Rabiot et Kanté. Et puis devant, il y aura Griezmann, Giroud et Mbappé. On voit qu'il y a beaucoup de changements, mais au final, cette équipe de France reste... ça reste une composition sérieuse. Il y a deux choix, moi, qui me vont pas trop, mais sinon dans l'ensemble ça reste une équipe.
Qu'est-ce qui ne va pas, Max? Vas-y, dis les termes.
C'est vrai que le côté de la défense gauche me fait un peu peur.
Digne
Kimpembe me va pas trop, et même Varane qui sera capitaine ce soir est en train de faire une saison plus que médiocre, il faut le dire, et il m'a pas convaincu pendant son match face à la Côte d'Ivoire, donc j'espère que la défense tiendra.
Mais après voilà, c'est l'Afrique du Sud,
c'est un match amical,
C'est des, surtout, c'est des joueurs qui sont quand même habitués à faire des bonnes performances.
Oui, mais de toute façon, le but, c'est de faire tourner. Hein.
Ouais, bien sûr.
Il me semble qu'il n'y a que Giroud et Griezmann qui, et Varane qui étaient titulaires au match aller, enfin, au dernier match, pardon.
Oui, puisque, ouais, au milieu, Kanté n'était pas là.
Et ouais, Rabiot est rentré, Klos est rentré, Saliba également.
Donc, voilà. on verra tout ça. Hein. Mais moi, j'adore, je ne sais pas si on a le temps un peu d'en parler, l'histoire Klos. Je trouve que c'est incroyable ce qui lui arrive. Il y a 5 ans, rendez-vous compte, il était dans le football amateur. Il n'était pas encore professionnel et là, il se retrouve en équipe de France. Donc, je trouve que c'est une très belle trajectoire et très inspirante d'avoir ça aujourd'hui dans le football actuel. Qu'est-ce qu'il y a, Majo? Je te vois rigoler. Qu'est-ce qu'il y a?
Non, je pensais à une mauvaise blague, mais qui n'a rien à voir avec le football. Donc,
d'accord,
je te laisse enchaîner le temps que je reprenne mes.
Très bien, vas-y, parce que je ne comprenais pas ce que j'avais dit
non,
de mal.
Il nous fera peut-être une carrière un peu à la Rivière.
À la quoi?
À Franck Ribéry.
Franck Ribéry?
Oui,
Ribéry plutôt.
Ribéry.
Tu veux dire comme Valbuena, voilà. Par exemple, recalé du centre de formation et puis qui va derrière trouver son bonheur ailleurs, entre guillemets. C'est vrai que vraiment, j'avais regardé pas mal la trajectoire de Klos, c'était vraiment intéressant. C'était un gros fêtard au début de sa carrière et du coup, il n'avait pas pu devenir professionnel. Et puis après, il s'est impliqué, il s'est fait remarquer en Coupe de France et puis en quelques années, voilà, il allait à Bielefeld, notamment en Allemagne, champion des deux allemandes et puis derrière Lens. Et puis on connaît maintenant la trajectoire, donc moi je trouve que c'est un bon joueur. Donc,
très bon joueur et très cool qu'il soit enfin dans cette équipe de France, parce que ça fait plusieurs mois vraiment que si on joue en 3-5-2, tout le monde se disait mais il faut
un piston.
Il faut le prendre vraiment.
Le spécialiste.
En tant que joueur français aujourd'hui à ce poste-là, je ne trouve pas meilleur. Les performances qu'il fait à Lens sont des performances très notables, donc il avait complètement sa place.
Surtout que maintenant on sait que Pavard, c'est un petit peu c'était le défenseur droit titulaire de Deschamps, sauf que maintenant il joue plus en centrale avec le Bayern, donc voilà, c'était clairement pas, et puis surtout il est pas très porté vers l'attaque, Pavard. Donc voilà, c'est bien que ça soit un vrai piston qui soit là. À noter que le deuxième piston normalement dans la hiérarchie, en tout cas sur ce rassemblement là, c'est Coman, aussi est piston droit avec
mais qui a un rôle beaucoup plus offensif
avec le Bayern, et donc c'est aussi intéressant d'avoir cette dynamique offensive, parce que c'est vrai que avec Deschamps on disait souvent bon voilà, je deviendrai pas vulgaire, mais en tout cas voilà, on s'ennuyait un peu devant notre télé, et en tout cas voilà, avoir ce système qui peut être intéressant avec des joueurs vraiment offensifs, et puis même à gauche Théo Hernandez, pourquoi pas Ferland Mendy qui va revenir, et puis Lucas Digne également, voilà, c'est des choix plutôt offensifs, donc ça fait plaisir.
Bah c'est le but aussi de ce,
et je trouve
de,
ça marche bien
de,
en tout cas
de cette animation. Bon là Digne, c'est vrai que c'est pas le même profil, mais Théo Hernandez et Jonathan Klos sont des joueurs très rapides. Qui ont surtout une très bonne qualité de passe, de centre.
Décisif surtout.
Et ouais,
Hernandez, il est déjà 4 passes D en 5 sélections.
Ah ouais, bah, je crois qu'il a été décisif sur tous ces matchs en équipe de France pour l'instant. Donc voilà, deux profils qui se ressemblent, mais qui vont apporter beaucoup d'apports offensifs à cette équipe de France. Et puis derrière, si tu joues à trois défenseurs, normalement, si Varane n'est pas là, tout devrait bien se passer. Mais non, sinon cette équipe de France, elle a de la gueule. Voilà, on va voir comment vont rejouer ce trio Mbappé, Giroud, Griezmann ensemble. Mais ça devrait le faire.
Enfin turnover sur le gardien.
Oui, c'est vrai.
Parce que Loris est quand même plus proche du départ.
Beaucoup de respect pour Loris, mais là il était temps, je pense, de faire la transition.
Après la transition, elle sera faite après la Coupe du Monde, je pense.
Sûrement, c'est sûr.
Puis même c'est mérité pour Maignan
qui monte en puissance. On n'enlève pas du crédit à Loris, même si c'est compliqué. C'est juste Maignan qui est actuellement plus fort et un des meilleurs gardiens du monde.
Il y aura le début de la saison prochaine qui va être.
C'est vrai qu'il reste encore du temps, c'est pas cet été donc.
Ça serait cet été, je te dirais oui.
Après le truc c'est quand même Lloris, c'est quand même le capitaine de l'équipe, je le vois pas du jour au lendemain
passer remplaçant. Il est difficile à déloger, quoi, on va dire ça comme ça.
Mais très bien d'avoir enfin une doublure, même si anciennement il y avait Steve Mandanda qui, on savait, était quelqu'un, un gardien sérieux. Maignan qui est très jeune et qui est à un top niveau, donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour le futur de l'équipe de France.
L'équipe de France joue a donc a joué, enfin en tout cas a joué déjà un match et va jouer donc ce soir un match amical. Dans d'autres pays, on joue des barrages pour les qualifications à la Coupe du Monde. Ça va être des barrages à enjeu. Voilà, nous Français, on est très sereins, mais du côté voilà portugais, italien, bon, du coup c'est fini pour eux. On leur passe le bonjour s'ils nous écoutent. En tout cas, voilà, il y a encore beaucoup d'enjeux, surtout dans cette soirée. Il y a les matchs qui sont un peu tous en même temps. Au niveau de l'Europe, Max en a parlé. Il y a le Portugal qui affronte la Macédoine du Nord. Personnellement, j'aurais pas mis une pièce sur le Portugal avant ce tournoi parce que voilà, déjà la Turquie c'était une belle équipe et puis après ils étaient censés donc jouer l'Italie et puis il y avait pas mal d'absents surtout du côté portugais au premier match. Au final, ils ont battu la Turquie et puis ils vont jouer contre un adversaire inférieur, donc tout de leur côté pour essayer de rallier le Qatar. Et puis on a un autre match qui va opposer la Pologne à la Suède, avec donc un duel à distance entre Robert Lewandowski et Zlatan Ibrahimovic, qui ne devrait pas être titulaire. Ouais. Donc les matchs viennent de commencer, on vous donnera évidemment le nom des buteurs s'il y a des buts. On peut repartir sur la zone Afrique, donc comme je le disais, ça n'a pas bougé actuellement, donc le Nigeria est tenu en échec à domicile contre le Ghana 1 partout. Pour l'instant, donc, avec le but à l'extérieur, c'est le Ghana qui est qualifié avec le 0-0 à l'aller. Et puis, du côté du Sénégal-Égypte, c'était vraiment un match à enjeu puisque c'était aussi la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, on en a parlé également. Et donc, 1-0 pour le Sénégal et donc statu quo actuellement. Donc, si à la 90e minute, le score reste inchangé, on aura le droit à des prolongations. Et donc, je le disais, Tunisie-Mali, Algérie-Cameroun et Maroc, République démocratique du Congo, ce soir.
Et puis il y a d'autres matchs, en ce moment il y a plusieurs matchs amicaux. Alors là je viens de tomber sur un score, la Norvège qui mène 8-0 face à l'Arménie.
Et bah c'est pas mal.
Et Hollande n'a mis que 2 buts. Donc comme quoi.
Petite forme.
Et sinon il y a une autre magnifique histoire, celle d'Eriksen.
Eh oui.
Donc voilà, vous le savez, hein, durant cet été, pendant l'Euro, Eriksen a subi un malaise cardiaque qui l'a écarté des terrains pendant de nombreux mois. Il a fait son retour avec la sélection la semaine dernière. Il est entré en jeu, il a marqué. Mm-hmm. Donc moment très émouvant. Et il a remarqué aujourd'hui.
Ok.
Et il a surtout marqué. Je sais plus où j'ai vu l'info. Je vais la dire, mais si je me trompe, je la revérifierai. Il a marqué sur le terrain où il avait été victime, où il a réalisé son arrêt cardiaque. Donc c'est un moment très très émouvant, ouais. et très important pour ce joueur qui, ouais, revient de très loin.
Et le premier match, donc il marque au bout de 30 secondes, je crois, vraiment plus une belle frappe. C'était aussi dans un lieu symbolique pour lui. C'était à la Johan Cruyff Arena d'Amsterdam. Là où il a fait ses débuts avec l'Ajax. C'était un stade qui comptait aussi beaucoup pour lui. Il s'est fait révéler donc aux yeux de l'Europe et puis donc voilà, c'était quelque chose d'important pour lui. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut dire. T'as parlé, on va aller sur les continents un petit peu plus éloignés de l'Europe et de l'Afrique. On va aller du côté, donc tu parlais de la zone CONCACAF. Donc apparemment le Canada est qualifié, ça on le sait. Les États-Unis et le Mexique sont en très bonne voie et le Costa Rica également va jouer une place, enfin devrait jouer une place de barrage face au vainqueur des éliminatoires d'Océanie, puisque l'Océanie, en tout cas le vainqueur des barrages de l'Océanie, joue contre le quatrième de la zone CONCACAF. Et donc voilà, ce sera du coup peut-être plus tard, donc en juin probablement, donc ce match-là. Au niveau de l'Asie, on a déjà pas mal de qualifiés. On a l'Iran, la Corée du Sud, le Japon et l'Arabie Saoudite qui se sont donc qualifiés pour la Coupe du Monde. Et puis on aura, je crois, si je dis pas de bêtises, l'Australie et Oman qui disputeront les barrages. En tout cas, c'est ce qui devrait se passer. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal d'équipes qui commencent à se qualifier un peu partout sur la planète foot. Et puis au niveau de, il y a la zone Amérique du Sud également, il y a pas mal de choses à dire. En tout cas, le Brésil et l'Argentine, hein, les habituels de la Coupe du Monde, Déjà ont gagné cette semaine et surtout sont qualifiés depuis assez longtemps. On rappelle que leur match les opposait avait été reporté, en tout cas il avait été annulé en cours de match à cause de d'heures qui avaient explosé pendant la rencontre. Je crois que
il y
ce match
pas un truc sanitaire aussi dans l'histoire.
Peut-être, mais en tout cas,
il me semble le mémoire match... qu'il y avait un truc par rapport à la situation sanitaire, par rapport aux règles qui n'étaient pas mises en place.
Peut-être un joueur covidé qui était sur la pelouse, je crois, un truc comme ça, non?
Oui, parce qu'il y avait ce truc-là. Il y avait une dizaine de joueurs argentins qui avaient le Covid, mais qui sont revenus juste avant le match.
Et où il y avait trois cas reconnus.
Et oui, il y avait un truc en rapport avec le Covid.
C'est ça. Puis il y avait l'intendant qui avait débarqué sur le terrain, ou des trucs comme ça, et ça s'embrouillait. En tout cas,
il est venu en Amérique du Sud.
C'est ça. Et apparemment, donc, le match ne devrait pas être rejoué, puisqu'il n'y a aucune incidence au niveau du classement, puisque les deux équipes sont largement devant. Le Brésil a 4 points d'avance sur l'Argentine et l'Argentine a 13 points d'avance sur l'Équateur. L'Équateur qui est donc qualifié, ça aussi il faut le dire, tout comme l'Uruguay. Et après ça va se jouer entre le Pérou, la Colombie ou le Chili. Donc ça pourrait être aussi intéressant, puisqu'il y a pas mal de grosses équipes. Il y a des bons joueurs qui pourraient ne pas voir le Mondial au Qatar. Dernière journée, ce sera ce soir, cette nuit, à 1h30 du matin, et heure française.
Et puis, c'est quand même hallucinant de dire, vu que vous êtes bien classé, ça va rien changer au classement.
Alors moi j'ai pas ce que je te dis, j'ai pas l'info officielle, je crois que c'est pas encore officiel. Je crois avoir entendu que c'était ce qui allait se passer.
Ce serait quand même hallucinant vis-à-vis des autres qui ont disputé plus de matchs et au final qui vont galérer plus à se qualifier, quoi.
Ouais, et il y a aussi une autre question qui se pose pour les qualifications en zone Europe, puisque comme tout le monde le sait, l'Ukraine est en guerre, mais l'Ukraine devait jouer face à l'Écosse, puis ensuite devait affronter donc le Pays de Galles qui s'est qualifié. Il me semble qu'on a toujours aucune nouvelle sur la teneur des événements. Normalement, les matchs devraient se jouer. Alors visiblement, ils pourraient même avoir lieu en septembre. Donc deux mois avant le début du mondial, rien d'officiel pour l'instant, mais voilà, c'est aussi une question qui se pose. Qu'est-ce qu'on fait si le conflit perdure? Est-ce que l'Ukraine sera déclarée perdante?
On verra. Mais en tout cas, le Pays de Galles est actuellement sera l'adversaire potentiel de l'Ukraine ou de l'Écosse. Puisqu'ils affrontent l'Écosse.
Quand on voit que dans d'autres sports ils ont peut-être tranché, voilà. Alors c'est vrai que l'Ukraine n'était pas forcément concernée, mais bon, quand on voit par exemple au hockey pour les expulsions des Russes et des Biélorusses, ils ont été repêchés les clubs qui étaient pas, enfin les équipes qui étaient pas qualifiées. Et là, sincèrement, même si le conflit se finit rapidement, je vois mal quand même les Ukrainiens derrière aller rejouer au foot comme ça du jour au lendemain. Enfin, il va falloir reconstruire le pays.
Non, mais c'est
je trouve que la FIFA là-dessus, alors on inflige des grosses sanctions directes à la Russie, à la Biélorussie. Ok, c'est un fait. Mais là, hélas, j'ai envie de dire, faut.
Après, quelle est la solution?
Il faut les mettre de côté, quitte à... soit pour une prochaine Coupe du Monde...
Ah, mais tu vois, c'est délicat, parce que t'imagines, c'est un pays qui a été envahi, et en plus, tu leur supprimes la Coupe du Monde, qui est quand même un événement, l'événement de l'année, qui est un gouffre Afrique. Donc, priver un pays de ça, pour des mauvaises raisons, en plus... C'est compliqué, c'est une décision qui est pas évidente, mais dans l'autre sens, tu peux pas non plus les qualifier, parce que qu'est-ce que vont dire l'Écosse et les Pays de Galles?
Faut pas les qualifier d'office, mais tu vois, c'est un peu hypocrite de faire traîner la chose, quoi. Enfin,
ouais, par contre, c'est vrai que ça va pas changer grand-chose que le conflit se termine demain ou dans deux mois, quoi.
Même si, voilà, ils jouent à la dernière minute le match de qualification, et qu'ils vont jusqu'en Coupe du Monde, on sait que derrière, ça sera sûrement compliqué, enfin. Donc des fois le côté un peu humaniste Ouais. Des bêtes d'histoire, faut savoir aussi prendre des bonnes décisions.
Ouais, mais là, la décision est compliquée à prendre. Puis on sait en plus que nos amis de la FIFA
prennent toujours les bonnes.
Prennent toujours des décisions à chier. Alors
voilà. Bah, et Max, calme-toi.
Ah,
il est tard.
Il est 21h, les enfants.
Tous les enfants ne sont pas couchés.
Non, mais enfin, tu regardes, c'est vraiment la seule fédération qui n'arrive pas à se mettre d'accord pour trouver une solution, quoi.
Ouais. Affaire à suivre là-dessus. Au niveau du hockey, où est-ce qu'on en est? C'est vrai que notre reporter, pas reporter puisqu'il est dans les studios avec nous, mais
techniquement, je suis en tribune vu la position de la caméra,
tu vis des choses,
en hauteur, bien placé,
un peu là-bas.
Ouais.
Voilà. Non, il reste 4 minutes dans le premier tiers, 0-0. Il y a eu quelques petits échauffourés de la part des Rouennais, là qui sont dans notre surface. Ça pousse, hein, c'est tendu. Et dans l'autre match, du coup, il y a 2-0.
Ok, donc okay. Grenoble qui se dirige
vers
la qualif.
Qui a assuré en tout cas en cette première période. Puis, là, il reste 4 minutes. Il y a engagement dans la zone en juin.
Très bien. Eh bah, on suivra ça de près. On sait qu'il y a pas mal d'enjoints qui sont d'ailleurs à l'Ice Park et puis surtout qui vont continuer à supporter les Ducs.
Oui, puis je pense aussi dans deux endroits festifs d'Angers où je pense que les matchs doivent être diffusés. Quoi que ça, il y a l'équipe de France aussi.
Ça commence par Matt, ça finit par Memphis, c'est ça que tu veux dire?
Non, j'aurais dit Delirium.
T'aurais dit Delirium?
Ouais.
Parce que je crois que le Matt Murphy's est partenaire des Ducs. C'est pour ça que je dis ça.
Le Matt Murphy's est partenaire des Ducs et le Delirium est partenaire du puck.
Et surtout, le Delirium est à deux pas de la S par contre.
Voilà.
Donc, et s'ils peuvent fêter la victoire pas loin.
Et puis, on citera le café de l'Amérique comme ça. On a fait trois marques.
Ouais, hein, c'est ça. Aucune promotion, surtout pas de l'alcool.
Buvez avec modération.
Non, évidemment. Mais en tout cas, voilà, c'est bien aussi. On peut réussir à avoir du hockey quand on peut pas accéder. Ouais.
Et ça fait du bien de voir l'avènement d'un nouveau sport qu'on diffuse et du moins d'une nouvelle actualité sportive qui touche un autre sport. Parce que même si j'adore le foot, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien d'entendre parler d'autre chose et de voir autre chose, suivre autre chose. Surtout que là, on est potentiellement en train de vivre une saison historique.
Historique également. Donc il y a quand même donc deux équipes, en tout cas pour moi, qui frappent cette année. C'est donc à Angers, c'est les Ducs et c'est le AB qui va vraiment faire une très belle performance avec ce titre qui va.
Tu peux même en mettre trois.
Avec.
On peut mettre l'UFAB.
Mais je préfère pas parler parce que justement j'ai eu l'impression de porter malheur à.
Par contre, on peut pas mettre le SCO football et ni handball. Hein, alors là.
Ah non, le SCO n'est pas en réussite. Le générique se lance peu à peu. On va laisser la main à Calibre 58 qui arrive juste après. Et nous, on se dit à mardi prochain pour une nouvelle émission de Génération Sport.